Rendez-vous ce soir, à partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter, la voix est libre.
Il est là-bas, là-bas si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet, et c'est maintenant sur Inter.
Alors, février, Stéphane Hessel. Bon. Mars, Hugo Chavez. Avril, Margaret Thatcher. Tiens, le printemps arriverait enfin.
Oui, bonjour, c'est Romy du Fossé du Nord à Lille. Et je voulais réagir en fait par rapport au décès de Margaret Thatcher. Moi, ça me fait penser en tant que chilienne d'origine. Je me souviens qu'en 99, si je ne me trompe pas, Margaret Thatcher allait rendre visite à un vieux monsieur décrépit, un assassin qui s'appelait Pinochet, et qui était dans son pays, donc en Angleterre, parce que Margaret Thatcher lui avait donné l'immunité judiciaire. Et grâce à elle, elle a pu échapper à la justice.
Même le dernier redécon, je veux dédier ces quelques vers issus du monde des goûts des hommes et de leurs menaces guerrières. Y a pas de gonzesse, soligane, imbécile et meurtrière. Y en a pas même en Grande-Bretagne, à part peut-être Madame Thatcher.
Voilà, à propos de l'émission d'aujourd'hui sur le monsieur tout blanc, là, moi je suis comptée certainement parmi les 1,5 milliard de catholiques. Évidemment, je suis baptisée, mais je me définis comme matérialiste et athée. Bon, moi, j'attends depuis bien longtemps que l'on mette tous les comptes de l'Église sur la table. Hein. J'attends que François s'y mette. Hein. Il y a du travail, hein, jusque dans les paroisses, les couvents, donc les biens immobiliers, toutes les finances et tout ça. Tout ça doit sortir, monsieur François le Pauvre. Bonne journée.
Daniel Mermet. Tu es le Philippe Henriot des extrémistes. Je te plains, car tu dois être très malheureux de te complaire, comme lui, uniquement dans le mal. Je t'envoie ce message après ce que je viens d'entendre aujourd'hui sur France Inter.
Bonjour. Pour faire écho à votre émission d'hier, c'était Monsieur Tout Blanc. En 1963 paraît la pièce de théâtre Le Stellvertreter de Horhout, le vicaire de Dieu, ce qui est en gros la position du Vatican face à l'Holocauste. C'est doublement intéressant parce qu'à la fin, vous avez aussi des documents qui sont donnés concernant justement les rapports entre les pays occidentaux, l'Holocauste, la Shoah et aussi la création d'un futur État Israël. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.
Monsieur Daniel Mermet, le bruit de casserole, il viendrait plutôt de votre côté ultra-gauchiste avec le génocide qu'a occasionné Staline et même Lénine, malheureusement hérité des idées révolutionnaires de 1789 avec la terreur. Alors, s'il vous plaît, touchez pas à mon pape, taisez-vous. Parce que moi, je suis un enfant de la guerre et les couvents étaient ouverts pour donner l'asile aux Juifs, ainsi que le Vatican. Pourquoi vous n'attaquez pas les autres religions? C'est une honte, vous êtes une vraie vermine, vous m'entendez? Vous mériteriez d'être pendu à un croc de boucher, ça oui.
Croc de boucher, ben dis donc, halal j'espère le croc de boucher. Voilà, ben, pas un peu, pas mal d'indignité, mais aussi de l'intérêt pour ce sujet que nous avons commencé à attaquer hier. Monsieur Tout Blanc, c'était une chanson, je le rappelle, une chanson de Léo Ferré de 1949 qui évoquait le pape Pie XII et son silence durant la Seconde Guerre mondiale. Et je disais hier que la chanson à l'époque avait été interdite par le comité d'écoute de la RTF. Aujourd'hui les choses ont changé, mais le bruit de casserole demeure. Le bruit de casserole, c'est celui qu'on entend depuis l'élection de notre nouveau pape. le père François. Alors, scandale financier, procès pour pédophilie, affaire révélée par Vatilix, on comprend très très bien que aujourd'hui les catholiques espèrent que le nouveau pape François saura faire le ménage au Vatican, mais il y a ce bruit de casserole, alors que les uns, on l'a entendu hier, n'entendent rien du tout, et d'autres en font un tintamarre. Il ne s'agit pas du tout des positions du père Bergoglio, c'est-à-dire le pape, contre l'avortement, même en cas de viol, ni de sa croisade extrêmement véhémente contre le mariage homosexuel. Il voit là, je cite, une prétention de détruire le plan de Dieu et rien d'autre que, je cite à nouveau, le dessein du démon responsable du péché en ce monde et qui cherche sournoisement à détruire l'image de Dieu. Fin de citation. Non, il s'agit plus précisément de son attitude durant la dictature argentine de 1976 à 1983. 30 000 morts et disparus, je le rappelle. On le sait, l'Église en Argentine fut entièrement engagée auprès des généraux et des tortionnaires. Bergoglio, le père Bergoglio, qui était parfaitement informé, il était à la tête de l'ordre des jésuites et il n'a émis aucune condamnation, ni même aucune critique de la dictature à l'époque et par la suite quelques excuses, mais extrêmement légères. Donc ça pose quand même, ça peut poser une question. Et puis surtout, il y a pire. Il a retiré la protection de l'Église à deux jésuites qui étaient sous sa responsabilité, deux jésuites qui étaient engagés dans les quartiers pauvres et qui pratiquaient ce qu'on appelle toujours la théologie de la libération. Leur ayant retiré la protection de l'Église, cela a entraîné, c'était le feu vert, si l'on veut, pour leur arrestation par les militaires, arrestation qui a été suivie d'emprisonnement et de torture. Voilà ce qu'affirment nombre de chercheurs et de témoins qui produisent un faisceau accablant de preuves, mais pas de preuves absolues, c'est vrai. Pour l'instant, ce que l'on peut appeler l'état de grâce dont bénéficie le pape François étouffe le bruit de ses lointaines casseroles. Mais on connaît les histoires qui sont liées au Vatican et à l'Église catholique et on peut se dire que cet étouffement et cet état de grâce n'est sans doute pas définitif. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui vous intéresse bien évidemment parce que l'influence du pape, l'influence du Vatican est considérable, sans doute moins en France que dans d'autres parties du monde. Celle dont il va être question très largement aujourd'hui, l'Amérique latine et notamment l'Argentine, là l'influence est considérable. Dans d'autres parties du monde, on l'oublie, en Asie, Philippines, Manille, etc. Donc, une influence considérable sur 1 200 000 300 000 de catholiques, tout ça n'est pas négligeable, doit nous intéresser et nous faire poser un certain nombre de questions. Monsieur Toublanc, donc aujourd'hui, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je pensais pas forcément appeler le répondeur un jour, malgré que je l'écoute. Voilà. Une facture de cantine non réglée, par difficulté, bien sûr, l'année dernière, d'un montant de 450 euros, m'amène aujourd'hui à un huissier qui exige de rentrer chez moi pour faire un état de saisie ou alors saisir ma voiture. On monte à donc une dette à près de 670 euros. Voilà. Il y en a vraiment marre qu'on soit pris pour des malhonnêtes, parce que je tombe sur un huissier qui est absolument, enfin une huissière, dirons-nous, très vindicative, qui a l'impression que je suis l'ennemi public numéro un. Et puis j'ai des enfants et ça me fait suer. Et j'en suis aussi à regarder, à les nourrir. J'ai bien agi toute ma vie, je suis quelqu'un d'honnête, j'ai travaillé. C'est pas malhonnêteté d'être dans la difficulté à l'heure actuelle. Il faut que ça bouge, quoi. Il faut que chacun sente qu'il est tributaire de quelqu'un d'autre et puis du respect, quoi. Bon sang, bonsoir, du respect. J'espère garder le moral tout de même. Voilà. Au revoir.
Bonjour, voilà, je suis un peu gêné, c'est Jean-Benoît de Tournefeuille. J'écoute l'émission d'aujourd'hui et il y a M. Gérard Filoche. Et j'ai l'impression qu'il est au Parti Socialiste, mais que lui, il est de gauche. Je ne le dis pas très fort parce que c'est un peu gênant quand même. Moi, j'étais gêné pour lui de l'entendre avec ce discours généreux et au Parti Socialiste. Il faut qu'il fasse attention à mon avis, hein, parce qu'il va être complètement ostracisé, quoi.
Je ne sais pas si vous allez en parler dans l'émission de demain, mais notre cher pape considère les femmes comme des citoyennes de seconde zone, un peu comme si on était complémentaires de ces messieurs. Il a dit d'ailleurs de Christina Kirchner que ce n'était pas la place d'une femme de diriger un État. Mais c'est moins grave de considérer les femmes comme des citoyennes de seconde zone que de s'être compromis avec la dictature. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Mesdames et messieurs, bonjour. L'énorme surprise d'hier soir au Vatican. Pour la première fois, un pape venu d'Amérique latine, un jésuite, et c'est une première aussi. Il a choisi de s'appeler François, vous le savez, en hommage à Saint François d'Assise. Sa simplicité, son sourire ont conquis les téléspectateurs et la foule hier soir sur la place Saint-Pierre.
À l'annonce de la divine nouvelle, le peuple argentin de Buenos Aires a spontanément afflué vers la cathédrale pour célébrer son ancien archevêque. Il faut prier pour sa santé. Je travaille en prison et l'an dernier, il est venu et a lavé les pieds d'un prisonnier. C'est un saint. Émotion de ceux qui l'ont connu dans l'exercice de son ministère auprès des plus pauvres.
En Argentine, des voix s'élèvent contre lui pour dénoncer des liens avec la dictature après 1976, période trouble pendant laquelle l'Église ne s'est pas opposée au régime. Son rôle précis est encore mal connu.
Oui, l'élection de ce pape pose une question de morale politique eu égard à son passé, à son histoire, notamment au moment de la dictature du général Videla en Argentine. Le rôle de l'Église catholique et de sa hiérarchie en Argentine est le pire rôle que l'Église catholique ait eu en Amérique latine sous les dictatures. Donc Bergoglio a une responsabilité historique de s'être fourvoyé dans une collaboration éhontée avec une dictature aussi sanglante que celle de Videla.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao et Guy Vanctil, Monsieur Tout Blanc.
Flight number 2, arriving from New York.
Personne ne veut se souvenir de ces choses-là, surtout en ce moment. Ils sont si contents, ils ont un pape argentin, modeste, qui porte des vieilles chaussures, qui s'appelle François, qui parle des pauvres, il est charmant en plus. Moi j'ai parlé avec lui, il est très sympa, vraiment sympa. Je le connais bien. Pendant que j'enquêtais là-dessus, je parlais souvent avec lui.
Une chose notable...
Alors, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Quand nous avons publié ça dans notre journal, la première prise de parole de l'ère papale de François
a été
pour nous accuser, moi et mon journal, d'être des gauchistes. C'est-à-dire la même chose qu'il a fait avec les prêtres Iorio et Jalix il y a 37 ans. Le même réflexe intact. Plutôt que de discuter, j'accuse de gauchiste. Moi, je trouve ça incroyable.
Et
c'est une preuve supplémentaire de sa façon de faire.
estoy rompiendo la unanimidad de la nación
Je
catholique.
Brise l'unanimité de la nation catholique.
Soy el anticristo.
Je suis l'antéchrist.
Voilà de qui vient la casserole, Horacio Verbitsky, que vous venez d'entendre, qui s'amuse en disant qu'il est devenu l'antéchrist. Horacio Verbitsky est un journaliste, écrivain, chercheur, une figure même de la scène politique en Argentine. Il est l'un des piliers d'un journal d'opposition qui s'appelle Parinados, et qui, dès l'élection du pape, du nouveau pape, François, a sorti ses dossiers et ses doutes, on peut dire des doutes, plus que ça, des documents, sur la, au moins le silence du nouveau pape, François, durant la dictature en Argentine. Pas seulement, puisque... Je le disais en commençant, il y a ces doutes et plus que des doutes sur ce qui s'est passé entre deux jésuites, deux jeunes jésuites dont il avait la responsabilité en tant que principal des jésuites de Buenos Aires à l'époque de la dictature, entre 1976 et 1983, responsabilité donc envers ces jésuites qui étaient attirés par ce qu'on appelle toujours la théologie de la libération, c'est-à-dire l'option pour les pauvres, l'option de soutien à ceux qui sont en lutte pour leurs droits tout simplement, et qui n'étaient très mal vus par l'Église argentine. On parlera ultérieurement d'autres églises d'Amérique du Sud qui ont eu d'autres conduites, par exemple l'Église brésilienne, l'Église catholique au Brésil a eu d'autres façons de faire et de se conduire. Mais l'Église d'Argentine, on va expliquer pour quelles raisons historiques, a soutenu avec zèle cette dictature. Et en aucun cas, jamais, l'actuel pape n'a condamné cette dictature particulièrement épouvantable qui a laissé 30 000 morts et disparus derrière elle et des dégâts considérables. Alors... Horacio Verbitsky actuellement a essayé de s'exprimer, repris par quelques voix à travers le monde, dont celle de Christian Terrasse, qu'on a entendu hier, avec son journal Golias, cette espèce de cateau critique, étonnant d'ailleurs. Mais ces voix sont pour l'instant mises un peu sous le boisseau. Il y a un enthousiasme envers ce pape. On espère, les catholiques espèrent, et on peut les comprendre, qu'il va nettoyer un peu les écuries du Vatican et amener, ouvrir une ère nouvelle. On ne peut que les approuver. Donc il y a un effet d'état de grâce actuellement. Très bien. Mais un jour ou l'autre, cette histoire reviendra à la surface. Horacio Verbitsky, nous l'avons rencontré en 1995, une première fois à Buenos Aires. Il était à l'époque l'auteur d'un livre qui a fait grand bruit, qui s'appelait El Vuelo, où il publiait les confidences d'un officier de l'armée d'Argentine qui, durant la dictature, a pratiqué des vols, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vols où on mettait des opposants dans des hélicoptères et on les jetait depuis ces hélicoptères dans la baie au-dessus de Buenos Aires. Il a confessé ça et ce livre a fait l'effet d'une bombe à l'époque. Et puis récemment, il a publié un autre livre qui a fait grand bruit en Argentine qui s'appelle Il Silencio. Un silence extrêmement bruyant. Et Il Silencio, en fait, c'est le nom d'une île, l'île Silence, une île proche de Buenos Aires, qui est toujours la propriété de l'archevêché et qui a été prêtée aux militaires à l'époque pour y transférer des victimes de la dictature encore vivantes au moment de la Coupe du Monde de football de 1978. C'est ce silence-là qui nous intrigue et avec lequel et avec lesquels et avec beaucoup d'entre vous, nous aimerions trouver un terme. C'est jusqu'à 16h, c'est la base si j'y suis, Monsieur Toublanc.
Jésus-Christ, un jour tu vas revenir. Est-ce que tu iras t'inscrire dans un club de catholiques? Est-ce que tes gosses, ils iront chez les scouts? Est-ce que toi aussi, tu voteras à droite? Alléluia! Jésus-Christ, toi qui t'y connais un peu, est-ce que maintenant tu peux nous dire qui c'est le vrai Dieu? Toi qui t'es tapé une pute il y a quelques années, est-ce que pour faire plaisir au pape, t'es chiche d'y retourner sans capote? Moi aussi j'aimerais devenir catholique. Moi aussi je veux détenir la vérité. Car quand on est convaincu qu'on a raison, on n'a plus besoin de se casser le cul à réfléchir. C'est mieux d'être catholique le jour où on meurt, car on va au paradis au lieu d'aller nulle part. Mais pour aller au paradis faut faire des bonnes actions, comme par exemple donner du pain à des sales clochards. Mais si t'es gentil avec les sales clochards, juste pour avoir ta place au paradis, bah Dieu il va trouver que t'es un peu hypocrite. Mais ça c'est dur de comprendre quand on est catholique. Alléluia! 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 Jésus-Christ, un jour tu vas revenir. Est-ce que tu pourrais légaliser le mariage pour les curés, histoire qu'ils laissent un peu les enfants tranquilles?
Horacio Verbitsky, dans tout le travail qu'a fait l'Argentine sur sa mémoire, sur son passé, sur les responsabilités de l'Église au cours de ces dernières années, est-ce qu'à un moment ou à un autre, notre pape actuel, M. Bergoglio, a été suspecté ou accusé par la justice de votre pays?
Non, il n'était pas accusé. Il a été appelé comme témoin en raison de cette situation de l'enlèvement de deux prêtres. Mais il n'a pas été accusé parce que Jalix ne voulait pas parler. Il disait qu'il avait pardonné, préféré d'oublier la situation. Et Orlando Jorio était mort. C'est pour ça qu'il n'était pas jugé. Il a parlé comme témoin.
Horacio, est-ce que vous considérez que Bergoglio a dénoncé ces deux prêtres ou bien simplement par omission? Est-ce que c'est une faute par omission ou une accusation véritable?
En premier lieu, ce n'est pas moi. C'est Jorio Angelix qui accuse Bergoglio. Il accuse Bergoglio d'avoir intrigué contre eux, d'avoir dit des mensonges militaires concernant eux, que Jalix et Jorio avaient des contacts avec la subversion, avaient des relations avec des femmes, étaient indisciplinés, et n'avaient pas l'obéissance à la supériorité ecclésiastique, etc., etc. Naturellement, ça, ce n'est pas une preuve de validité judiciaire sur sa participation dans l'enlèvement, mais c'est un clair indice de sa forme de procédé.
Que vous résumez comment son procédé?
C'est un procédé de duplicité.
De duplicité.
Il s'accuse Bergoglio d'avoir dit des choses calomnieuses contre eux qui ont eu comme conséquence que militaires le sont enlevés.
Voilà, alors on peut dire, mais attendez, c'est pas le rôle de l'Église ou de, même de l'ordre jésuite de se mêler de politique. L'Église doit être en retrait de la politique. Alors c'est une vieille controverse, bien évidemment. L'influence politique, idéologique de l'Église est considérable, parfois à l'extrême droite, parfois à droite, parfois même à gauche. Et j'évoquais tout à l'heure l'Église, par exemple, d'Argentine et la théologie de la libération, où certains courants de l'Église catholique qui ont été à gauche, il y a à peu près tout le spectre politique qui est représenté au sein de l'Église ou qui a été appuyé par par l'Église à un moment ou à un autre. Alors, c'est, vous allez me dire que c'est un peu un cheval et une alouette de gauche et un cheval de droite. Mais enfin, il faut quand même bien souligner ça. Quant à l'influence politique de l'Église, je le disais en commençant, l'actuel pape François, lorsqu'il était le père Bergoglio à Buenos Aires, récemment menait une véritable croisade contre le mariage des homosexuels, contre l'avortement même en cas de viol, etc. Donc ce sont des sujets politiques, bien évidemment. Or, il n'y a pas un moment où on fait de la politique, il y a un moment où on n'en fait pas. L'attitude générale du pape, au moins le minimum reconnu par tous, au moins son silence et son absence de critique, et la moindre critique envers la dictature, ont évidemment une signification et posent, comme le disait hier Christian Terrasse, une question de morale politique. On est avec Horacio Verbitsky. Horacio, de façon plus générale, quelle a été son attitude vis-à-vis des prêtres et de l'Église de la théologie de la libération?
Giorgio et Jalix étaient des prêtres de la théologie de la libération, et Bergoglio était opposé à la théologie de la libération, parce qu'il dit que la théologie de la libération a de l'infiltration marxiste, dans les mêmes termes que l'a dit le pape Jean-Paul, que la transformation de Christ dans un prophète de la violence, de la révolution, c'est trahir les principes catholiques, etc. Il était contre la théologie de la libération. Mais, dans une manière subtile, il dit qu'il y a des infiltrations marxistes dans la théologie de la libération, dans l'Église. Il a dirigé une publication théorique qui dénonce cette infiltration marxiste dans la théologie de la libération.
Horacio Verbitsky, l'Église, à l'époque de la dictature, entre 76 et 83, période que vous connaissez bien, période qui fait l'objet de votre livre « Il Silencio », est-ce que l'attitude et la conduite de Bergoglio par rapport à l'ensemble du comportement de l'Église catholique était quelque chose de normal ou bien quelque chose d'exceptionnel?
Non, c'était normal.
Voilà.
Parce que l'ensemble de la conférence épiscopale a donné son appui au gouvernement militaire. Et j'écris une histoire politique de l'Église catholique à l'Argentine, en 4 volumes. Et dans les dernières de ces volumes, qui s'appelle « La main gauche de Dieu », je raconte avec des documents que 45 jours après le coup militaire, la conférence des évêques a commencé sa première réunion sur la répression. On racontait des tortures, on racontait des assassinats, des enlèvements clandestins. Et une fois qu'ils tous connaissaient parfaitement la situation à l'Argentine, ont analysé que faire avec cette information. Ils ont voté et 19 évêques ont voté pour dénoncer la situation, mais 38, il double, ont voté pour ne pas dénoncer la situation. Et comme décision finale, ils ont décidé de donner une déclaration publique. La conférence épiscopale dit que le coup militaire vient en salvation de valeurs de l'Occident chrétien et qu'on ne peut pas prétendre qu'en temps de violence et sang, la répression sera faite avec des méthodes chimiquement pures. C'est-à-dire, ils savaient parfaitement qu'est-ce que se passait. Et ils ont décidé d'approuver la répression en justifiant par la situation générale, de la violence, etc., etc. Ça, c'est documenté.
Ça veut donc dire que l'Église catholique en Argentine a cautionné donc le régime, la dictature, et justifié la torture, par exemple.
Absolument, absolument. Ils font des déclarations générales condamnant les abus contre les droits de l'homme, mais en termes concrets, ils ont donné son appui à la dictature de la même manière que les évêques de l'Espagne ont appuyé la croisade du général Franco en 1936. C'est la même histoire. Et c'est la lutte contre le communisme, le marxisme, etc., etc. Vous savez que Mgr Caggiano, qui à ce moment-là était le président de la conférence d'évêques et en même temps l'aumônier général de l'armée, lui et Mgr Adolfo Tortolo, un des introducteurs à l'Argentine de l'organisation intégriste française Cité catholique, ont ouvert les portes des baraques militaires à cette organisation intégriste qui a convaincu les militaires que la méthode de l'armée coloniale française en Indochine et en Algérie était légitime à l'Argentine.
L'influence des Français pendant la dictature est confirmée par deux témoins de premier rang.
Les Escadrons de la Mort, l'école française de Marie-Monique Robin, septembre 2003.
Le général Arguin Degui, ministre de l'Intérieur. Et le général Dias Bessonnet, ministre de l'Équipement. Chef du 2e corps d'armée, Dias Bessonnet était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Quant au général Arguin Degui, il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les deux généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français.
La première arme, le premier outil pour lutter contre une agression révolutionnaire, subversive ou de type guérilla, c'est d'avoir un bon appareil de renseignement. Ce fut l'un des enseignements les plus importants que nous ont transmis les Français de leur expérience en Algérie.
Oui, nous avons tout appris des Français. Ici, le renseignement avait toujours eu de l'importance. Il s'agissait de connaître les positions des troupes d'un ennemi extérieur, avec drapeau et uniforme. Mais rien à voir avec un ennemi terroriste, subversif, qui est caché et disséminé dans la population.
Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive.
Est-ce que les Français vous ont enseigné la technique de la GIGN ?
On ne peut pas dire qu'ils nous l'aient enseigné. Ils nous ont expliqué à quoi ça servait. Et puis nous avons adapté la technique au fur et à mesure de la lutte.
Comment voulez-vous obtenir des renseignements si vous ne secouez pas, si vous ne torturez pas ? D'ailleurs, à propos des disparus, disons qu'il y en a eu 7000. Je ne crois pas qu'il y en ait eu 7000. Mais bon, que vouliez-vous que nous fassions ? Vous croyez qu'on pouvait fusiller 7000 personnes ? Si on en avait fusillé 3, le pape nous serait tombé dessus, comme il a fait avec Franco. Le monde entier nous serait tombé dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Les mettre en prison ? Et puis, dès qu'arrive un gouvernement constitutionnel, ils sont libérés et ils recommencent. C'est une guerre interne, c'est pas une guerre contre un ennemi de l'autre côté de la frontière. Ils sont prêts à reprendre les armes pour tuer à la première occasion. Ici, la guerre a été très efficace. En 3 ans, la subversion a été anéantie.
Voilà, extrait du travail de reportage de Marie-Monique Robin, Escadron de la mort, l'école française. Le film date de 2003, avant que les procès ne soient rouverts et que la loi d'amnistie soit considérée comme illégale. Ce film, le travail de notre consoeur Marie-Monique Robin, a contribué à rouvrir les dossiers et à entreprendre le travail de justice et de vérité en Amérique latine. Et elle montre bien, ce film montre bien, très précisément, comment la France, les militaires français, ont enseigné les méthodes contre-insurrectionnelles qui avaient été utilisées durant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, notamment l'usage généralisé de la torture, donc enseigné par les Français. Ça fait un lien entre l'Argentine et nous. Les procès, les recherches, les aveux, les condamnations ont été entrepris, je le disais, en 2003 et continuent toujours aujourd'hui. L'Argentine est à la recherche de la justice, je le disais hier, pas de justice sociale sans justice historique. On revient en arrière en 1995, à cette époque, il y avait la loi d'amnistie dominait, la loi du silence dominait, c'était fini, il fallait plus en parler. Néanmoins, nous avions à l'époque rencontré des témoins, des militants, pour qui ça ne devait pas se passer comme ça, ça ne pouvait pas, évidemment, s'oublier. Là-bas, si j'y suis, 1995.
On pouvait penser qu'il voulait information, qu'il voulait détruire et les organisations qui représentaient la résistance contre la dictature, mais il voulait persécuter toute expression de liberté et de résistance. Et même, je pense aussi qu'il voulait qu'il y avait des gens qui pouvaient raconter ça et disséminer, on dit, le terreur partout. Non?
Malgré tout, elle parle. Anna Maria Carriaga est une jeune femme. Elle avait 16 ans en 1977. Elle a été arrêtée par les militaires argentins au moment de la dictature. Elle a été torturée. C'est un dimanche à Buenos Aires. Il fait très beau dans ce square. Les gens se détendent et cette femme parle.
Mes parents étaient réfugiés politiques.
Vous aviez quel âge?
Et 16 ans.
Vous aviez 16 ans, 1977. Où est-ce que vous avez été interné?
Et moi, dans un camp de concentration qui s'appelait Club Atlético. Pendant 4 mois, c'était un endroit dans la ville de Buenos Aires. Et c'était un endroit de la police. Et j'étais brutalement torturée et j'étais enceinte de moins de 3 mois.
Est-ce que vos bourreaux respectaient au moins ça, le fait que vous soyez enceinte, que vous attendiez un bébé?
Non, pas du tout. On était tout le temps avec des bandeaux. Oui.
Sur les yeux?
Sur les yeux, tout le temps. J'étais comme ça les quatre mois.
On vous mettait, pendant 4 mois, vous aviez
oui,
un bandeau
oui.
sur les yeux?
Oui, et même aussi avec des chaînes aux pieds, oui, aussi. Parce que, par exemple, j'étais brutalement torturée sur une table de métal et complètement nue. Ils m'ont attachée avec les jambes ouvertes et les bras aussi ouverts. Et ils me torturaient tout le temps avec la picane. Ça, c'est courant électrique. C'était comme un stylo. Et avec des courants électriques. Et ils ont augmenté tout le temps les volts pour me torturer plus. Ils mettaient de kérosène, de gasoline, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, dans les sexes. Ils me torturaient et surtout et dans les sexes, les poitrines. Et après tout ça, j'ai perdu plusieurs fois la connaissance.
Ils vous demandaient quoi? Ils vous demandaient de dire quelque chose, de dénoncer des gens, de... Qu'est-ce qu'ils
voulaient? Oui, de dénoncer des gens. Où était mon mari, par exemple? Ils voulaient savoir sur ma famille. Mais je crois que, principalement, ils voulaient me détruire, que je perde mon personnalité. Mm-hmm. Par exemple, ils me disaient que je n'étais plus Anna Maria Carriaga. Il disait que j'étais K04, K04.
Vous aviez un numéro et vous avez collé un numéro?
Une lettre et un numéro. Il disait, et en plus il disait, nous sommes les dieux, et nous sommes les propriétaires des vies des personnes.
Nous sommes les maîtres de la vie des
oui,
personnes.
Oui, les maîtres, oui. Nous disons quand les gens vont vivre, quand les gens vont mourir. Et il me disait tout le temps...
Nous avons droit de vie et de mort.
Oui, c'est ça. Et même il y avait un autre camp de concentration qui s'appelait l'Olympe. Et il disait, ici, c'est l'Olympe de Dieu.
Tout ça, ça fait quand même des références à des idéologies nazies, quoi.
Oui, c'est ça. Ils ont pris beaucoup d'enseignance de nazisme, et même, ils revendiquaient l'idéologie du nazisme. Et là-bas, dans les camps de concentration, on écoutait des cassettes de Hitler, qui les polices mettaient tout le temps.
Et le discours d'Hitler.
À haute voix, oui. Quand j'ai voyagé en Suède, il y a eu des médecins de Amnesty International qui m'ont examiné et ils ont trouvé plus de 100 marques dans mon corps de la torture. Uh-huh. Il y a des gens qui disent, bon, ça y est, on ne peut pas vivre tout le temps avec ça, on ne peut pas parler tout le temps de ça, on ne peut pas penser...
Il faut pouvoir, oublier.
Oui, mais pour oublier, entre guillemets, il faut d'abord faire justice. Même si je veux oublier, parce que c'est terrible, et pour moi, et pour ma famille, et pour mon histoire, moi, je ne peux pas oublier. C'est pas une question de volonté.
La prison à vie, le verdict tombe et les cris de joie éclatent devant le tribunal.
France 24, 27 octobre 2011.
Plus de 30 ans après les faits, Alfredo Astiz, surnommé l'ange de la mort, et 11 autres officiers écopent de la prison à vie pour leurs exactions commises sous la dictature argentine dans les années 70.
Ça a été dur, le procès a été vraiment difficile, mais 34 ans après, ces crimes horribles sont reconnus et enfin les familles peuvent faire leur deuil.
À l'époque, Astiz est responsable dans les prisons clandestines du régime militaire. 5000 dissidents y ont été emprisonnés et torturés de 1976 à 1983. Pendant longtemps, il n'a pas été inquiété. Dès 1985 pourtant, la France lance un mandat d'arrêt. Il est soupçonné d'avoir commandité le meurtre de deux religieuses françaises en 1977. L'Argentine refuse son extradition.
Quand j'ai été enlevée, ma mère a commencé à travailler avec les maires du Place de Mai. Un jour, le 8 décembre 1977, ma mère a été enlevée ce jour-là. C'était Alfredo Astiz qui a commandé l'opératif.
Votre mère a été arrêtée avec ces deux religieuses françaises.
Oui, Alice Dumont et Léonie Duquet. Et ils étaient dans l'église Santa Cruz. Je voulais savoir sur ce disparu.
Ces deux religieuses françaises étaient venues en Argentine pour soutenir les maires de la place des Mai.
Pour travailler, pour aider les gens qui avaient des problèmes, pour se solidariser avec la cause des maires. Et ils ont été conduites à l'école de l'armée.
L'école spéciale de mécanique de l'armée, l'ESMA, de sinistre mémoire qui est au milieu de cette ville.
Après, on a lu des témoins, on a connu des témoins qui racontaient que les maires ont été transférés.
Quand on dit transférés, ça veut dire quoi?
Et chaque mois, ils prenaient des gens qui étaient là-bas pour les tuer. Mais nous, on ne savait pas ça.
Et ces deux sœurs, ces deux religieuses françaises, ont été torturées et tuées?
Le gouvernement n'a jamais répondu qu'est-ce qui s'est passé avec les deux sœurs françaises, avec les autres parents des disparus.
Quelles sont les chances d'obtenir la justice dans cette affaire?
Le jugement d'Astiz en France, je crois que c'est très très important. Parce que
il a été jugé et condamné en France par contumace.
Oui. Oui, mais c'est une façon de montrer à ce pays qu'on peut faire de justice. Que la justice qu'on ne fait pas ici, pour les faits qui ont eu lieu ici, peuvent être jugés dans les autres pays. Je crois que ça, c'est très important. Si on veut faire justice, si on veut juger les crimes que les militaires ont commis, on peut faire ça.
Oui. Mais est-ce que vous y croyez vraiment?
Je crois qu'on ne veut pas.
Et pourquoi on ne veut pas?
C'est le même gouvernement qui a indulté, par exemple. On dit comme ça, c'est le gouvernement de Menem.
D'amnistie présidentielle. Et ça, on ne revient pas là-dessus.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous espérez vraiment qu'on peut revenir sur toutes ces lois qui ont été adoptées par votre pays? Est-ce qu'on peut sérieusement espérer l'abrogation de ces lois, rouvrir les dossiers, refaire des enquêtes et arriver à un tribunal qui jugerait quoi? Qui jugerait une partie du pays?
Je n'espère pas ça de ce gouvernement. Mais je crois qu'il faut toujours penser qu'on peut obtenir la justice. Oui.
Voilà, c'était en 1995 et en effet, on pouvait penser qu'on pouvait obtenir la justice, eh bien, la justice s'est mise en route à partir de 2003, 8 années plus tard, 8 longues années, pour tous ceux qui, comme cette femme, avaient subi la dictature, la torture, 30 000 morts, disparus, je le rappelle. Et c'est tout ça que l'actuel pape, alors qu'il était principal des jésuites à Buenos Aires, ignorait, ou n'ignorait pas, mais dont il n'a jamais parlé, il n'a jamais émis la moindre critique contre ce système. Il y a donc une responsabilité, au moins par omission. Vous vous souvenez, le confiteor, j'ai péché par pensée, par parole, par action, par omission. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. L'omission fait partie, selon l'Église catholique, des péchés. Alors, encore une fois, actuellement, voilà, état de grâce, mais cette histoire reviendra sans doute à la surface à un moment ou à un autre. On a évoqué à l'instant les liens entre les militaires français qui ont été la base technique, la base stratégique et la base idéologique de la dictature et des militaires argentins de l'époque. Voici en 1995 ce qu'en disait Horacio Verbitsky.
Un des facteurs idéologiques les plus importants a été l'idéologie des pieds noirs de l'Algérie française. Et ici, les militaires argentins ont étudié avec les livres du Roger Trinquier. Le colonel Trinquier, c'est un des colonels français d'Indochine et d'Algérie. C'est un des principales idoles des militaires argentins. L'expérience française d'Indochine et d'Algérie a été transladée à l'Argentine par des militaires français qui ont dicté des cours pour des militaires argentins. Et la bibliographie antisubversive des écoles militaires argentines est principalement française. Mais la différence, c'est que la France était dans un conflit colonial. Ici, à l'Argentine, ces mêmes concepts ont été appliqués à une guerre civile, à une guerre interne. La France a eu une grande influence sur la droite argentine, sur la droite révolutionnaire argentine. Et le mouvement d'action française de Charles Maurras a eu à l'Argentine plus d'influence que le fascisme italien de Mussolini ou le falangisme espagnol de José Antonio Primo de Rivera. Parce qu'il avait une tradition des relations entre l'Argentine et la France. C'est pour ça que l'action française a eu telle grande influence. Et nous avons eu à l'Argentine une immigration d'intellectuels et de curés français qui ont eu une énorme influence sur les militaires argentins. Par exemple, le curé Georges Housset, Georges Gasset, ils sont formés ici à l'Argentine des organisations semblables et avec les mêmes dénominations que Verve, la Cité catholique, et ils sont formés des cellules à l'intérieur des forces armées argentines. Par exemple, le général argentin Camps, qui a été un des majeurs torturateurs et assassins de la dictature militaire, dans un de ses articles, il faisait une référence qui était cryptique pour le lecteur argentin, parce qu'il parlait de Javier Valla. Vous savez qui était Xavier Valla? Xavier avec...
Oui.
X, Xavier Valat. Xavier Valat a été un des principaux collabos des Allemands pendant le régime de Vichy. Était le haut commissariat des affaires juives à la France. Et la France de Vichy a été un noyau inspirateur pour les militaires argentins.
Alors, base idéologique, je pensais aussi à l'Église catholique, qui a joué un rôle très important pour fournir des justifications.
Oui, l'Église catholique était centrale dans ces projets. Les évêques ont béni les armes, les canons des militaires. Les délégués du Vatican a été dans le front de combat, dans tous les champs de concentration. Il a eu des chapelains qui ont conforté les tortureurs et les assassins militaires et les ont donné une justification pour la torture avec des paraboles bibliques pour l'assassinat des prisonniers, avec les discours de la défense et les traditions nationales, de la croix et de l'épée et de la bannière.
On sait bien l'admiration que Perón éprouvait pour Mussolini. Oui. On sait aussi la mansuétude, la compréhension que le pouvoir argentin a eu aussi vis-à-vis des nazis au lendemain de la guerre. Donc c'est un ramassis, quoi, votre Argentine.
Oui, malheureusement. C'est malheureusement qu'on vous disait. Oui.
Un acte suprême. C'était un acte suprême. Lorsqu'on recevait cet ordre, on n'en parlait plus, on l'accomplissait de façon automatique. Comment réagissaient les détenus quand on leur parlait du vaccin et de leur transfert? Ils étaient contents. Ils soupçonnaient absolument rien. Aucun d'entre eux n'avait conscience qu'il allait mourir. Après le décollage, le médecin qui était à bord leur faisait une seconde injection, un calmant extrêmement puissant. Ils sombraient dans un sommeil profond. Et une fois qu'il dormait, qu'est-ce que vous faisiez? C'était très morbide. Il y a quatre choses qui me pèsent. Les deux vols que j'ai accomplis, la personne torturée sous mes yeux et le souvenir du grincement des chaînes et des fers. Je ne parviens pas à l'oublier, je voudrais le plus en parler. Quand j'y pense, ça me rend dingue. Pendant qu'ils étaient inconscients, on les déshabillait. Quand l'avion se trouvait au large de Punta Indio, sur l'ordre du commandant, on ouvrait la porte et on les jetait nus, un par un. Personne ne peut dire que c'est faux. Les appareils étaient des Skyvan de la préfecture maritime et des Electra de la marine. Comme il était de coutume, à ce moment-là, dans la marine, il y avait des invités spéciaux. Qu'est-ce que vous entendez par invités spéciaux ? Des officiers supérieurs de la marine qui ne participaient pas au vol, mais qui venaient nous encourager, par exemple des capitaines de vaisseau ou des officiers supérieurs qui avaient une autre affectation. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Rien. En quelque sorte, ils nous soutenaient moralement dans la tâche que nous accomplissions. Ils restaient assis et ils regardaient. L'homme qui parle ainsi, c'est le capitaine Chilingo. 20 ans après, le capitaine Chilingo a avoué, pour la première fois face aux journalistes, ce militaire, bouffé par le remords, est venu dire que les militaires ont torturé de 76 coups d'État à 83. Évidemment, les Argentins le savaient. La commission d'enquête, depuis, l'avait montré. Mais jusque-là, les militaires eux-mêmes ne l'avaient pas reconnu. Et les aveux du capitaine Chilingo ont frappé violemment l'Argentine, ce pays qui essaye et qui n'en peut plus d'oublier. Bien sûr, il y avait d'autres façons de se débarrasser des subversifs que de les jeter depuis les avions dans l'Atlantique. On pouvait les brûler. On pouvait les enterrer dans des charniers, dans des fosses communes. Toujours est-il que de 1976 à 1978, 2000 prisonniers ont été jetés ainsi, vivants, depuis les avions. Ils auraient été 4000 selon les associations de droits de l'homme. En tout, c'est 30 000 à 40 000 hommes, femmes, enfants qui ont disparu en Argentine pendant la dernière dictature militaire. Disparu, ça veut dire ni mort, ni vivant.
Et de tout cela, l'actuel pape n'a jamais parlé alors et n'a jamais protesté contre tout cela. Cette heure était dédiée à la mémoire d'Alice Daumont et de Léonie Duquet, deux religieuses qui furent torturées et disparues en 1977 et jetées, anesthésiées depuis les avions, dans le Rio de la Plata. C'était Monsieur Toutblanc avec Antoine Chao et Guy Van Til. Merci à tous, merci à Marie-Monique Robin. Escadron de la mort, l'école française est disponible en DVD chez Arte Édition. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter. À la rubrique programme, émission là-bas si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Pauline Laverdure. Franck Adhérer et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Léa Minot. Attendez dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. N'oubliez pas le croc de boucher, un boucher halal.
Soyez les premiers à vivre l'expérience du son binaural développé par Radio France au Forum Futurapolis au centre Pierre Baudis à Toulouse. Équipé d'un casque stéréo, découvrez un reportage de notre collection 5 jours à la une avec un son comparable à celui d'un 5.1 d'un home cinéma. Rendez-vous au Forum Futurapolis, samedi 13 avril à partir de 16h30. Entrée libre sur inscription. Toutes les informations sur franceinfo.fr.
France Info, une radio de Radio France. France Inter présente Après la bataille de Yousri Nasrallah en coffret DVD. Février 2011, Mahmoud est l'un des cavaliers de la place Tahrir qui charge les jeunes révolutionnaires. Rim est une jeune femme moderne. Elle veut changer son pays. Après la bataille, c'est leur rencontre. Un regard sensible et politique sur la société égyptienne. Un coffret DVD France Inter.
France Inter, partenaire de l'exposition La valise mexicaine, Capa, Taro, Chim, les négatifs retrouvés de la guerre civile espagnole. Pour la première fois à Paris, les films et images de la guerre d'Espagne, considérés comme perdus depuis 1939, est miraculeusement retrouvés. L'histoire de trois célèbres photographes juifs qui ont jeté les bases de la photographie de guerre et du photoreportage engagé. Jusqu'au 30 juin, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Retrouvez l'exposition « La valise mexicaine » dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h dépassées de presque une minute sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les informations avec Laetitia Gaillet. Salut.
Un discours martial ce midi de François Hollande, le chef de l'État s'est voulu intraitable, ce sont ses mots après l'affaire Cahuzac. Il a donc dévoilé les grandes lignes du projet de loi sur la modernisation de la vie publique, la moralisation d'ailleurs. Parmi les annonces, la création d'une haute autorité indépendante chargée de contrôler le patrimoine des ministres, mais aussi la création d'un parquet financier à compétence nationale pour lutter contre la corruption et l'évasion fiscale. Le chef de l'État a aussi annoncé une mobilisation contre les paradis fiscaux. Quant à Jérôme Cahuzac, il ne doit pas revenir selon lui siéger à l'Assemblée nationale. De son côté, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, se dit d'accord avec la demande des centristes de l'UDI d'une commission d'enquête parlementaire dans l'affaire Cahuzac. Le tribunal correctionnel d'Avignon a relaxé cet après-midi la mère de famille qui avait envoyé son fils de 3 ans à l'école avec un t-shirt portant la mention « Je suis une bombe, djihad » née le 11 septembre. Elle était poursuivie avec son frère pour apologie du crime. Pour motiver sa décision, le tribunal a appuyé son jugement sur un article de la loi de 1881 qui prévoit que l'apologie du crime doit être non équivoque. Décision subtile selon l'avocate de la mère de famille. Le procès de l'accident du car d'Allinge, lui, n'est pas terminé. Ce matin, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains s'est déplacé sur les lieux du drame en Haute-Savoie. Le revêtement du sol, l'emplacement des signaux lumineux et la butée sur laquelle passe la voie ferrée ont été examinés. En 2008, 7 collégiens ont été tués dans la collision de leur car scolaire avec un TER à un passage à niveau, donc à Allinge. Deux nominations aujourd'hui. L'ambassadeur français à Kaboul, Bernard Bajolat, a été nommé à la direction de la sécurité extérieure, la DGSE. Le général Denis Favier, lui, va prendre la direction générale de la gendarmerie. Il connaît plutôt bien la maison puisqu'elle a été notamment deux fois à la tête du GIGN. C'est le républicain Lorrain qui a révélé l'information ce matin. Un détenu de 57 ans a été retrouvé mort dans sa cellule à Metz après un malaise. Ses co-détenus avaient tenté de donner l'alerte, mais c'est un autre détenu d'une autre cellule qui a utilisé son portable pour prévenir les secours, Cédric Langrotte.
C'est dans une cellule du troisième étage de la maison d'arrêt de Metz que ce détenu a été retrouvé mort. En cette fin de dimanche de Pâques, il vient de faire un malaise sous les yeux de son co-détenu. Paniqué, ce dernier appuie sur le bouton de l'interphone censé être relié à un poste de surveillance. Mais personne ne répond. Fadil Hadouki, représentant syndical pour FO Pénitentiaire.
En fait, il y a eu une panne technique et ça fait que les agents n'ont pas entendu ce signal. En service de nuit, on a des rondes toutes les deux heures. Donc c'est vrai que si un agent passe, je donne un exemple, à 23h et que le détenu fait une tentative de suicide ou un malaise à 23h15, il ne peut pas repasser tous les quarts d'heure, en fait, si vous voulez.
Et du coup, c'est un autre détenu qui appelle les secours avec un téléphone portable alors que c'est interdit en prison. Mais ça ne surprend pas Fadil Hadouki.
Avec la suppression des fouilles intégrale à l'issue du parloir, il y a tout qui rentre dans nos prisons. Donc nous, on le sait, des produits illicites et des armes et de l'argent, on le sait.
Une information judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances précises de ce décès. Y a-t-il eu défaillance du personnel ou bien un problème d'entretien de ce fameux circuit d'interphone ? La direction de la prison refuse de commenter cette affaire. À Metz, Cédric Langrotte, France Bleu Lorraine pour France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Au téléphone sonne ce soir les paradis fiscaux, le secret bancaire, l'évasion fiscale, comment fonctionne la dissimulation de sommes colossales, comment combattre cette fraude, avec quels moyens de contrôle. Vos questions sur notre répondeur 01 56 40 23 95 ou dès 18h au 01 45 24 7000 et toute la journée sur franceinter.fr.
Le téléphone sonne, Pierre Veille, ce soir sur France Inter à partir de 19h20.
France Inter.
La voix est libre.
Allez, c'est à vous Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillet, à tout à l'heure.
Bah, à tout à l'heure.
Ouais, 17h.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Et oui, il y a des nouvelles difficiles très souvent, mais il y a aussi quelquefois des raisons de se réjouir. Par exemple, il y a eu un bel événement hier à Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie, où on écoute beaucoup France Inter. D'ailleurs, au lycée professionnel des métiers de la neige, parce qu'évidemment, il y a le sport pendant l'hiver, on peut faire du ski, on peut faire de la luge, on peut enseigner, etc., etc. Mais il y a aussi l'été. Et puis, quand on est un sportif de haut niveau, on peut pas pratiquer cette discipline absolument toute sa vie. Donc, on enseigne aux jeunes à faire autre chose, c'est-à-dire, par exemple, la construction, la maçonnerie, les travaux de la maison pour monter des murs et puis tous les accessoires nécessaires pour vivre à l'intérieur de ces murs. Donc c'est un endroit très particulier et il y a un atelier qui a été dégagé soigneusement de maisons qui ont été déconstruites, des maisons d'exercice. Hein. On s'entraîne à construire et puis on a déconstruit pour mettre un piano hier et il y a eu un récital, conférence autour de Beethoven avec le pianiste Giovanni Bellucci. Dans le public, évidemment, toutes sortes de personnes, mais beaucoup de jeunes, des sportifs, et qui, pour beaucoup, ne sont jamais allés à un concert classique. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'attention, d'intérêt, après ça, des questions pertinentes. Il y a un jeune champion qui s'appelle Igor Fiar, spécialiste de télémarque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le ski d'autrefois, les premiers skis, donc où le talon n'était pas fixé, ce qui permettait plus de souplesse, parfois de finesse technique, au prix évidemment d'acrobatie, enfin c'est une discipline très très, très technique, très difficile, mais ce jeune champion Igor Fiar a eu des propos très pertinents sur certaines similitudes entre le travail du sportif de haut niveau et celui du virtuose. Et celui qui a joué hier, c'est donc Giovanni Bellucci. Alors bravo à tous, et voici Giovanni dans le presto de la sixième sonate de Ludwig van Beethoven.